Ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est un passage de l'Ancien Testament. Peut-être qu'on connaît bien, peut-être qu'on connaît moins bien, parce que l'Ancien Testament, c'est toujours assez ardu. C'est le livre Néhémie. Néhémie. C'est le chapitre 2. S'il vous plaît. Chapitre 2. À partir du verset 11. Alors, je vais peut-être le lire là, comme ça, parce que ma traduction est un peu différente de celle-là. Alors, voilà ce que Néhémie dit. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu, je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où passer la bête qui était sous moi. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent d'une seule voix, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. On voit là quand même un peuple qui est uni d'une même voix. C'est ça qui est important. L'attitude peut-être de Jérémie pourrait être surprenante ou étrange même. Mais il faut comprendre que pour lui, Jérusalem, ce n'est pas une cité comme les autres. J'ai bien aimé ce matin, Rebecca, elle a parlé de la maison. Jérusalem, en plus grand, c'était la maison de Dieu. C'était là où Dieu se tenait, le temple. Et il faut voir que Néhémie, de voir que cette ville de Jérusalem avait été détruite complètement, des murs avaient été détruits, des portes étaient consumées, ça ne ressemblait à plus rien. Et Néhémie avait envie de que Jérusalem retrouve sa splendeur, sa valeur. Alors, on sait que pour lui, Jérusalem, c'est le cœur du pays. Et en plus, c'est là que Dieu se tient. C'est là que le temple a été construit et tout cela est détruit. On n'a pas lu, mais des versets auparavant, on aurait vu que sa venue dans ses ruines est conduite par son Dieu. Alors, non seulement il a mesuré les dégâts, mais surtout, il veut reconstruire sur les brèches. Ça part de quelque chose qui devrait être presque naturel dans notre cœur de chrétien. Reconstruire sur des brèches. Et nous vivons dans un monde où il n'y a que des brèches. Que ce soit sur le plan du travail, que ce soit des fois dans la maison. On n'est que sur des brèches. Il y a des choses qui sont détruites, il faut reconstruire. C'est Ésaïe, le prophète, qui dira cette parole. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Ésaïe 58, verset 12. Et là, on voit Néhémie, quand on le suit, qui réfléchit, en considérant toutes ces murailles en ruines de Jérusalem et en voyant en plus toutes ces portes consumées par le feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Et si vous lisez le chapitre 3 de Néhémie, vous allez voir que ces portes qui ont été consumées peuvent avoir une signification spirituelle pour nous aujourd'hui. Ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Dans Néhémie 3, le premier verset, il est parlé de la porte des brebis. Cette porte est la première. D'ailleurs, c'était la première qui a été restaurée. Car elle est tout près du temple. C'est par là que le bétail arrivait pour les sacrifices. Cela nous rappelle l'agneau de Dieu, Christ qui s'offre un sacrifice pour nous. Il est non seulement la première porte, mais il est aussi la dernière. Je suis l'alpha et l'oméga, dira le Seigneur. Et dans Jean 10, verset 7, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et dans le verset 9, il précise, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est important de savoir que le salut ne peut pas s'acquérir autrement que de venir devant Dieu et reconnaître que Jésus s'est offert pour ma vie. Alors, on pourrait parler encore sur cette porte des brebis, mais je ne voudrais pas être trop long parce qu'il y a plusieurs portes et chaque porte a une signification. La deuxième porte qui est mentionnée, c'est dans Néhémie 3, verset 3, la porte des poissons. Cette porte est particulière aussi parce que le poisson nous rappelle que c'est un élément qui permet de se nourrir. Et en même temps, après la conversion de chaque créature, aussi bien de vous que de moi, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Si vous me dites « non, ce n'est pas essentiel », alors là, moi, je vais vous regarder d'un regard en disant « mais mon garçon ou ma fille, tu es à côté de tes pompes. » On doit se nourrir de manière régulière, comme le corps a besoin, notre esprit a besoin d'être nourri aussi. Ce doit être un acte quotidien, afin de ne pas rester un bébé spirituel. C'est aussi la porte du baptême dans le Saint-Esprit. Le fameux revêtement de puissance qu'on retrouve dans Acte 1, verset 8. Cette puissance qui s'est manifestée, qui est descendue sur tous les disciples. Ça a été quelque chose... Moi, je ne sais pas si vous auriez aimé être là, mais moi, j'aurais aimé. Parce que ça a dû être quelque chose de très impressionnant. N'oublions pas que ces disciples n'étaient pas habitués encore à ça. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Ils ont découvert là. Le poisson a des écailles et il a des nageoires. Alors là, si je parle à des pêcheurs, ils savent très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? J'en ai regardé qu'un seul. Oui, c'est le fameux revêtement de la cuirasse de justice. Les écailles nous parlent de protection à travers la cuirasse. Les nageoires nous servent à progresser à contre-courant. Et nous savons que dans le monde que nous vivons, nous sommes obligés de nager à contre-courant de l'esprit de ce monde. Et ici, nous avons vraiment une image de l'équipement spirituel du croyant. La troisième porte... C'est dans Néhémie, toujours chapitre 3 et verset 6, il est parlé de la vieille porte. La vieille porte. La vieille porte est là, elle est comme une interrogation que nous pourrions nous faire. Pourquoi ne pas mettre une nouvelle porte? Elle est consumée, c'est une vieille porte. On changera la porte, mettons une porte neuve. Alors, on pourrait répondre, pourquoi pas un nouveau évangile? Écoutez bien, pourquoi pas un nouveau évangile? Si un jour vous entendez ça, prenez la fuite. Parce que vous n'avez rien à faire à un endroit où on va vous dire il faut un nouveau évangile. Si vous suivez d'ailleurs l'apôtre Paul dans ses écrits à ses différentes églises, vous allez voir qu'il va s'insurger contre ça. Il dira même que si même un ange descendait du ciel avec un nouveau évangile, qu'il soit anathème. Waouh ! Paul dit ça. Et il a raison. Parce que l'évangile a été donné une fois pour toutes. Il n'y a aucune variation dans l'évangile. La parole est suffisante pour transformer un cœur et permettre qu'une vie nouvelle s'établisse dans un corps. Non, ce que Dieu a fait, il n'y a plus à revenir dessus. Attention, je redis une deuxième fois, attention au danger de vouloir être transporté à tout vent de doctrine. Ce qui était du temps de l'apôtre Paul l'est aussi pour notre temps. Et vous savez, tout vent de doctrine, on s'est aperçu dans les années qui nous ont précédées, pas si vieux que ça, qu'il y a eu toutes sortes de vents contraires. Toronto, il y a eu, pour les Canadiens, Canadiennes, le truc de Toronto. eu toutes sortes de vents de doctrine comme ça. Non, l'évangile est là et il n'y a pas besoin d'être revu. La vieille porte nous parle aussi de séparation, de sanctification. Ce qui est, aux yeux du Seigneur, a de la valeur. C'est Jean dans son épître qui va dire ceci. « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole de Dieu que vous avez entendue. » La quatrième porte, c'est la porte de la vallée. Néhémie 3, verset 13. J'aime bien le psaume 23, quand il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et c'est vrai que la porte de la vallée peut être une porte difficile à franchir ou à vivre. Mais Dieu permet. Dieu permet que l'épreuve, et que souvent, il nous fait passer par le creuset, qui, comme l'or du fondeur, va être épuré. Et souvent, nos vies ont besoin d'être épurées. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je sais que l'épuration, il y en a eu. Et je ne dis pas qu'il n'y en aura pas encore. Sûrement qu'il y en aura encore. Et on a besoin d'être épurés. Épurés parce que, dans notre façon de concevoir de certaines choses, même avec la parole, on a besoin que le Seigneur fasse un travail qui nous permette d'aller de l'avant. Cette porte, elle parle aussi de croissance, en stature, du fait que l'épreuve, qui est souvent difficile à vivre, nous amène aussi à en sortie grandie. Or, ne soyons pas fatalistes face à l'épreuve, mais qu'au contraire, qu'elle nous rende encore plus forts. Alors, il y a une cinquième porte qui est peut-être moins intéressante, celle-là, et pourtant, elle y est. C'est dans Néhémie 3, 14, c'est la porte du fumier. Cette porte-là est là pour nous rappeler que l'homme sans Dieu a déjà sa destinée toute tracée. Le fumier symbolise l'odeur nauséabonde du péché, et c'est pour le chrétien une mise en garde. C'est Pierre qui va dire ceci dans sa lettre, deuxième lettre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Vous savez que cette parole-là, je ne sais pas comment vous la comprenez ou la saisissez maintenant. Ce qui veut dire que si quelqu'un a eu la connaissance, il a rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur et vient à retourner dans le monde, dans le péché, sa condition devient pire que celle qu'il avait avant. Comme quoi, il y a danger. Nous sommes appelés à veiller sur notre propre vie. Ce n'est pas le tout de veiller sur les autres, mais veiller sur sa propre vie. De façon que ma vie soit en conformité à ce que le Seigneur a le droit d'attendre de moi. On va sortir de la porte du fumier. Je pense que c'est suffisant d'en dire pas plus. La porte de la source, qui est Néhémie 3,15, a sa place aussi. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ésaïe 18. C'est la plénitude de la vie abondante qui porte du fruit pour Dieu. Nous savons que l'ennemi de notre âme fera tout pour boucher cette source. Lisez Abraham, lisez Isaac, ces fameux puits qui ont été tous rebouchés. On pourrait penser, oh, c'était bouché, bouché, bon, on n'en parle plus. Non, non. Isaac a rouvert tous les puits de son père. Et chaque fois, il y a eu contestation. Attention de ne pas se laisser boucher le puits ou la source qui vient d'en haut. La porte des eaux est la septième. Il y en a quand même encore deux autres. Vous êtes patients, c'est bien. La porte des eaux, Néhémie chapitre 8, verset 1er. Il nous est dit que cette porte donnait sur une très grande place, et c'est là que la parole de Dieu était annoncée. Et c'est Ézéchiel qui nous parle un peu de cette maison. Et voici, de l'eau sortait sur le seuil de la maison, à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, me fit traverser l'eau en plusieurs fois jusqu'à ce que je doive nager. Et c'est vrai que là, on voit qu'à travers cette manifestation que Ézéchiel a vécue, cela nous parle de la plénitude de l'esprit. Nous sommes invités à venir au torrent de Dieu. La rivière de Dieu est toujours pleine d'eau, nous dit la parole. Et c'est vrai que si vous voulez nous abreuver, c'est là. Un peu comme la Samaritaine. Samaritaine, Jésus dit, mais l'eau que je te donnerai jaillira jusque dans la vie éternelle. Dernière porte que je voudrais voir avec vous, c'est la porte d'Orient. D'ailleurs, c'est Matthieu qui, dans son témoignage, avait parlé de cette fameuse porte d'Orient. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, elle est fermée. Car pour les Juifs, le Messie qui doit venir passera par cette porte. Et sur les hauteurs, qui est un peu face à cette porte, les Juifs se font enterrer. Afin que quand le Messie va venir, en passant, ils vont ressusciter. Mais pour nous, nous savons que non seulement il est venu, mais qu'il va revenir, et d'une autre façon. C'est ce que disent les anges aux disciples. Comme le Seigneur que vous avez vu monter, il reviendra de la même façon. Alors, à travers cette porte à l'Orient, on peut voir l'intériorité des plans de Dieu. Tout nous ramène, à travers les âges, au plan rédempteur que Dieu avait préparé d'avance pour sa créature. Et pour nous, aujourd'hui, notre espérance s'appuie sur Jésus qui tient les clés et dont la lettre aux Philippiens, à Philippe, fait mention. Apocalypse 3, verset 7-8. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il y a un autre passage de l'Apocalypse, juste après, je crois que c'est chapitre 4, je ne l'ai pas relevé, il est dit, il y a une porte qui est ouverte. Alors là, peut-être que je vais quand même vous dire une chose. Cette fameuse porte qui est ouverte, c'est la porte de la grâce. Cette grâce qui nous permet encore aujourd'hui de passer de la mort à la vie. Mais il y a une condition, c'est déjà de recevoir sa parole. Et non seulement recevoir sa parole, mais venir à lui tel que vous êtes. Si vous avez des préjugés, le qu'en dira-t-on? Si vous vous dites, ah oui, mais bon, je suis jeune, j'ai le temps, hein, je fais mes études. Bon, quand j'aurai fait mes études, bon, mais quand tu auras fait tes études, après, tu vas dire, il faut que je travaille. Quand tu auras travaillé, tu vas dire, mais là, il faut que je me marie. Et quand tu seras marié, tu diras, ben maintenant, il me faut des enfants. Vous voyez? On recule, on recule. Et puis après, ça sera le moment de la retraite. Et là, je n'aurai plus le temps. Et là, le Seigneur te reprend. Et tu iras où? Comme quoi, le message de Dieu, à travers même une ville comme Jérusalem, qui parle de lumière, de paix, nous invite encore ce matin à ne pas faire n'importe quoi, à venir à lui tel que nous sommes et à le recevoir. Alors j'espère que ça fera réfléchir quelqu'un. Parce que Dieu n'est pas lointain. Vous savez, parfois, vous voyez, le fait de dire « j'ai le temps ». Non. Mon ami, qui que tu sois, il faut que tu saches que tu n'as pas le temps. Tu ne sais pas dans la minute qui suit où tu vas aller. Regardez, dans le monde qu'on est, des accidents qu'il y a, ces accidents, ça prend les jeunes de tout âge. Regardez, dans le monde dans lequel on est, le nombre de suicides. Est-ce que vous arrivez à imaginer le nombre de suicides qu'il y a en France? Est-ce que vous arrivez à l'imaginer, cela? On ne peut pas l'imaginer. Mais moi, je peux vous dire que les accidents mortels sur la route ne sont rien à côté du nombre de suicidés. Je parle de suicidés, pas de tentatives de suicide, de suicidés. Non ? Et si vous saviez combien, chaque jour, dans le monde, des personnes s'en vont sans Dieu ? Mais écoutez, moi, je ne veux pas vous faire peur, mais en même temps, il faudrait peut-être avoir peur, en disant, mais est-ce que je suis sûr d'aller auprès du Seigneur si je partais maintenant ? C'est ce qu'avait chanté De Courroux, pour ceux qui ont assisté. Où je serai après ? Où je serai ? Et c'est vrai que... Où je serai après ? Si vous n'êtes pas convaincu que là, pour le moment, vous ne savez pas où vous allez, mais ne réfléchissez plus, venez au Seigneur. Je ne veux pas rallonger plus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur intervienne dans chacune de vos vies, que vous puissiez progresser en lui et marcher d'un même pas avec lui. Amen. Merci Seigneur, parce que à travers cette ville de Jérusalem qui était détruite, à travers ces portes qui étaient consumées, Seigneur, tu vois combien on peut retirer encore un message pour chacune de nos vies, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, pour déjà pour moi-même, Seigneur, mais aussi pour tous les bien-aimés qui sont là, de nous donner de comprendre ta parole, de la, non seulement de la vivre, mais de la mettre en pratique, Seigneur, chaque jour, parce que nous savons que les temps qui sont devant nous sont très incertains. Nous savons que le monde part à la dérive et que le désordre moral, la nuit arrive, Seigneur, et qu'un jour cette porte sera fermée, Seigneur, puisque ta grâce sera arrivée à son terme. Merci Seigneur, parce que nous voulons être vraiment un jour dans ta présence, afin de t'adorer et d'élever ton nom, Seigneur. Amen.
Je vous invite à découvrir le programme de la semaine à l'écran, et je laisse tout de suite la place à Pierrick pour l'étude biblique de mardi.
Il m'a grillé en disant que c'était l'étude biblique. Moi, je voulais vous parler de la porte que Georges n'a pas parlé, qui est la porte qui s'ouvre le mardi soir à 20h30 en bas. Elle est un petit peu... Des fois, on a un petit peu du mal à y rentrer. On se dit, elle me fait un peu peur, cette porte. Mais à chaque fois qu'on en ressort, c'est une porte qui nous a édifiés. Et elle permet de s'édifier soi-même. Elle permet d'édifier les autres. Donc, mardi, l'étude biblique. On est en train de terminer la série qu'on fait sur des paroles bizarres de Jésus. La parole bizarre de Jésus qu'on va étudier cette fois-ci, elle est dans Marc 3, verset 31 à 35. Alors vu que c'est très court et qu'on a le temps, je vous la lis juste. Marc 3, verset 31 à 35. La mère et les frères de Jésus arrivèrent alors. Ils se tinrent en dehors de la maison et lui envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Un grand nombre de personnes étaient assises autour de Jésus et on lui dit « Écoute, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te demandent. » Jésus répondit, et c'est là la parole qu'on veut étudier mardi, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il regarda les gens assis en cercle autour de lui et il dit « Voyez, ma mère et mes frères sont ici, car celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Donc on va étudier ça pour ceux qui ont le livre, c'est le chapitre 8 du livre. Venez pousser cette porte. Voilà, merci.
Et méditez ces paroles avant de venir. C'est facile à se rappeler, Marc 3, 31 à 35. Puis peut-être que vous allez venir avec des questions, peut-être que vous allez venir avec des réponses. C'est important de les partager, les réponses, de voir si elles sont en phase avec les réponses des autres. Puis si vous avez des questions, alors venez. Samedi, journée club. Rebecca a déjà fait l'annonce. À quelle heure, par contre ? 10 heures, comme d'hab. Voilà. Donc 10 heures samedi, et les enfants viennent avec le pique-nique. Faites de la pub autour de vous, parce que si on veut que des enfants viennent, bien, il faut les inviter. Vous avez vu que la chorale répète encore jeudi. C'est pas pour rien. C'est parce que le dimanche 17 juin, à 18h, donc il y aura un concert ici. On ne sait pas encore dedans ou dehors, on ne sait pas encore, mais il y aura un concert ici. Ce sera donc le week-end de la fête de la musique sur la commune. Et en tant qu'église, on veut fêter la fête de la musique et on veut aussi inviter d'autres personnes à venir participer à ce concert, puisque c'est un concert pour faire connaître le message de Dieu, le message de l'Évangile. Et pour le coup, là, c'est pareil, il faut inviter, si on veut que les gens viennent, il faut les inviter. Et il y a au fond de la salle, sur le petit meuble, des flyers d'invitation. Donc, n'hésitez pas, partagez-les. Donc, ce sera donc la chorale, ainsi que la chorale de gospel qui est dirigée par David Pantel. Et David sera aussi au piano avec nous, et ce sera vraiment un chouette moment. On se réjouit déjà d'avance. Donc, le club d'été, là aussi, on a déjà eu des informations, une place. Mais voilà, prions pour cette place, mais prions aussi pour les 95 qui sont déjà inscrits. Hein. Que Dieu prépare les cœurs, que Dieu prépare les cœurs des parents aussi, des familles, et que Dieu prépare aussi tous ceux qui vont s'impliquer dans cette semaine. C'est si important que cette semaine soit vraiment placée sous le regard de Dieu et dans sa présence. Le dimanche d'après le club d'été, donc pas le dimanche qui clôt la semaine du club d'été que l'on passera à la salle Gaston Laverrière, mais le dimanche d'après, donc le 22 juillet, on va se retrouver pour une journée à la Lècherolle, donc il n'y aura pas de culte ici. Et puis il y aura encore un autre dimanche, il n'y aura pas de culte ici, c'est tout début septembre, enfin pas tout début, mais le 8-9 septembre, on aura donc un week-end d'église, de nouveau à Champfleury. Voilà, c'est important de le noter dans les agendas, c'est un week-end, il faut quand même le prévoir un petit peu à l'avance, donc les 8 et 9 septembre. Oui. Donc on va remettre en route, ça fait quelques temps qu'on en parle déjà, le CEP Télécom, donc un petit annuaire avec les informations pour qu'on puisse se joindre les uns les autres. Si vous n'avez pas encore donné vos informations à Nancy, ben vous pouvez encore le faire. Et puis tu voulais... Oui.
Deux petites annonces pour les écoles du dimanche. Alors, les parents, vous avez normalement déjà reçu un mail. Donc, le 24 juin, on va avoir notre clôture d'école du dimanche de fin d'année. Donc, cette année, on va rester dans les alentours de l'église. Et les moniteurs vont faire à manger pour les enfants. Donc, pas de pique-nique. Mais par contre, j'ai besoin un peu de réponse des enfants qui seront présents ou pas. Donc c'est les parents qui nous ont encore pas répondu, si vous arrivez à me dire, qu'on puisse un peu évaluer le nombre d'enfants qui seront là. Merci. Et l'autre chose, c'est aussi, du coup, après cette clôture, ben, ça sera les vacances d'été. Et petite nouveauté cette année, les moniteurs prennent aussi un peu de vacances, et on vous propose, donc bien sûr, s'ils veulent s'inscrire, ils peuvent toujours, hein, les moniteurs, mais on vous propose un calendrier libre pour s'occuper des enfants un dimanche, pour les personnes qui ont envie. Donc si vous avez plus de questions, vous pourrez me demander après pour les âges et autres, mais donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça sera la partie après la louange, et puis prendre un temps avec les enfants, vous qui n'êtes pas moniteurs et qui ne les voyez pas forcément les dimanches, mais qui aimez aussi les enfants, et puis et peut-être que vous avez à cœur de passer une fois... un petit moment avec eux et de préparer quelque chose pour eux. Donc la semaine prochaine, je mettrai un tableau avec les dates, vu que maintenant on a la date de la Lècherolle. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Et puis ça vous laisse aussi une semaine pour réfléchir au dimanche où vous êtes libre. Et puis si ça vous intéresse de passer aussi un petit moment avec les enfants un dimanche matin. Merci.
Merci. C'est vrai, c'est intéressant de se mettre à la place des moniteurs, de voir ce qu'ils vivent, et puis surtout d'être à disposition aussi pour les enfants, les entourer et leur apporter quelque chose de concret aussi. Je vous invite à vous lever devant notre Dieu, et je vous lis encore quelques versets dans Philippiens 4. Philippiens 4, à partir du verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Passez un bon dimanche et une bonne semaine.